Bon Noël. Je suis aussi porteuse des salutations depuis la salle des épancheurs où j'ai fait un tour tout à l'heure, un passage au Noël autrement. Et le maire, notre maire de la Neuville, m'a demandé de vous apporter ses vœux. Donc je le fais d'entrée. Noël pour les enfants. Noël de l'enfant Jésus, Noël ensemble, en famille. Noël pour nous rappeler les pauvres, les exclus et les sans-voix, pour réveiller notre solidarité. Gardons le silence quelques instants pour penser à tous les peuples en guerre, les peuples martyrs. Nous sommes ici, il fait doux, il fait bon. Ayons une pensée pour le Noël de tant de gens gâchés par la violence et la bêtise. Merci. Noël pour les traditions, les repas et les cadeaux, les rois mages et les étoiles. Noël pour les crèches avec les bergers, les moutons, le bœuf et l'âne. Noël, image d'Épinal, diluée dans les inondations de guirlandes lumineuses et de Père Noël clignotant. Noël avec les musiques et les chansons, souvent américaines, qui s'écoulent dans les marchés, se faufilent entre les stands et les cabanons, se mêlant aux effluves d'amandes grillées et de vin chaud. Noël de la naissance de Jésus, Dieu qui s'incarne, prenant le visage d'un enfant. Noël pour toutes et tous, en somme, propriété de personne, la fête qui nous invite à la paix et à l'accueil. Comme ce soir dans cette belle église, qui nous est familière ou qui s'est ouverte occasionnellement, parce qu'à Noël c'est important de venir se relier à autre chose, de sortir du quotidien. Noël, c'est le bout du chemin de nuit, c'est le point de bascule de la nuit vers une lumière nouvelle, c'est la célébration d'un quelque chose ou d'un quelqu'un que nous attendons pour redonner de la clarté au visage du monde. Nous prions. Cette nuit, Seigneur, Dieu, Emmanuel, tu nous accueilles. Tu te tiens là, présent, à l'exact carrefour entre la nuit et le jour. C'est la saison, certes, mais c'est aussi le point où tout bascule. Nous sommes dans la nuit, tu nous présentes la lumière. Nous sommes dans la solitude, tu nous présentes une haleine de vie en communauté, un souffle d'espérance qui peut nous rassembler. Nous te nommons et te suivons certainement chacune et chacun à notre manière. Dans ce moment de veille, comme un havre de paix, laissons-nous ensemble traverser d'un trait de lumière, comme on contemple le début d'un lever de soleil à l'horizon. Cette aube qui pointe et nous raconte le lever de ton amour, la vie plus loin que tout ce qui meurt et nous fait mourir. Seigneur, Dieu très bas, sois loué. Amen.
Merci beaucoup. La première lecture nous fait rejoindre, en cours de route, l'histoire de la venue au monde de Jean-Baptiste. Nous sommes dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1, versets 63 à 79. Zacharie se fit apporter une table à écrire et il inscrivit ces mots. « Jean est bien son nom. Ils s'en étonnèrent tous. Aussitôt, Zacharie put de nouveau parler. Il se mit à louer Dieu à haute voix. Alors tous les voisins éprouvèrent de la crainte. Et dans toute la région montagneuse de la Judée, on se racontait ces événements. Tous ceux qui en entendaient parler y repensaient et ils se demandaient « Que deviendra donc ce petit enfant ?» La puissance du Seigneur était en effet en lui. Zacharie, le père du petit enfant, fut rempli de l'Esprit-Saint. Il se mit à prophétiser « Béni soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, parce qu'il est venu secourir son peuple et il l'a délivré. Il a fait lever pour nous une force qui nous sauve parmi les descendants du roi David, son serviteur. C'est ce qu'il avait annoncé depuis longtemps par les prophètes de Dieu. Il avait promis qu'il nous délivrerait de nos ennemis et du pouvoir de tous ceux qui nous veulent du mal. Il a manifesté sa bonté envers nos ancêtres et il s'est souvenu de son alliance qui est sainte. En effet, Dieu t'avait fait serment à Abraham, notre ancêtre, de nous libérer du pouvoir des ennemis, de nous permettre ainsi de le servir sans peur, en vivant tous les jours d'une façon digne de lui, accordée à sa volonté et sous son regard. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Dieu très haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses chemins et pour faire savoir à son peuple qu'il vient le sauver en pardonnant ses péchés. Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fait briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix.
À chaque fin d'année, nos cités sont imprégnées de l'esprit de Noël, a écrit un collègue et ami dans le journal du Jura récemment. Les familles et les amis en profitent pour se revoir. Noël fédère bien au-delà de sa dimension religieuse et chrétienne. Et c'est une bonne chose, parce que Noël est plus qu'une fête chrétienne. Noël est devenu une propriété collective de nos sociétés plurielles. Certains croyants s'en désespèrent. Ils devraient s'en réjouir, parce que Noël déborde largement des cloisons qui nous divisent. Son message résonne aux dimensions universelles. Il est proprement réconciliant. Le respect se veut mutuel, les cadeaux célèbrent la générosité et le partage, sans oublier l'importance des enfants dans nos projets communs. Les appels à la paix, pour toutes les personnes de bonne volonté, sont plus urgents que jamais. À cela, nous restons attachés, quelles que soient nos convictions personnelles et spirituelles. Noël rassemble au-delà des divergences religieuses ou politiques. Voilà pourquoi il paraît dérisoire de vouloir en nier les dimensions chrétiennes, par exemple en l'affublant de nouveaux titres aussi atypiques que dérisoires, fête de l'hiver, marché de l'hiver. J'aurais pu essayer de vous dire cela avec mes propres mots, mais je n'aurais pas fait aussi clair ni aussi concis. La société actuelle se détourne des institutions et des traditions. La frénésie commerciale peut nous heurter, le côté sucre-glace et Père Noël en tout genre. Mais Noël est un bien commun à partager. Il ne peut susciter de crainte chez personne, ni devenir un sujet de clivage. C'est aussi essentiel de ne pas nous permettre de juger du cheminement spirituel des autres. Ce n'est pas parce qu'ils n'adhèrent plus à une religion institutionnalisée qu'ils ne sont pas en recherche, en questionnement, voire en demande. Alors, plutôt que de risquer de nous replier dans la crainte que Noël nous échappe, que sa dimension chrétienne se dilue totalement, nous sommes appelés, invités à être des témoins vivants et engagés de ce mouvement où, dans la nuit la plus profonde, une lumière a été donnée, grâce, cadeau, surprise, qui nous permet de lever les yeux vers l'horizon et d'y distinguer une aube nouvelle. Cette lumière, c'est un projet fou et unique en son genre, un Dieu qui devient un humain, en passant par le même chemin de gestation et de naissance que tous les êtres humains du monde, le ventre d'une femme. Cela s'est passé à Bethléem, hors des circuits et des cités, hors des lumières et loin des foules. Certains diront peut-être que c'est parce que cette naissance était pour des initiés seulement un lieu privé, réservé, caché. Et si justement ça s'est passé au dehors, un peu loin, un peu dans la nuit noire, pour éviter que les plus bruyants, les plus nombreux, les plus érudits se l'approprient pour en faire leur truc, leur vérité, leur savoir. Pour se rendre à Bethléem, dans cette étable, auprès de cette étable, riches, pauvres, bergers, toutes et tous ont dû accepter de cheminer dans la nuit, de tâtonner, de se prendre les pieds peut-être dans les cailloux des chemins. Quand il faut chercher dans la nuit, nous sommes toutes et tous à égalité, poussés à nous entraider et à nous éclairer mutuellement, des croyants les plus convaincus jusqu'aux gens les plus dubitatifs. Il faut la chercher, cette lumière. Elle peut et doit briller à Bethléem, mais aussi bien au-delà. Plus nous en vivons, plus nous la portons, plus elle peut se transmettre. Le monde a désespérément besoin qu'elle brille, que fleurisse la rose de la paix au cœur de l'hiver.
La deuxième lecture est issue de l'Évangile selon Luc, chapitre 2, versets 1 à 14. Si je peux me permettre une petite remarque de lecteur, on dit que les trois grandes vertus théologales sont l'amour, la foi et l'espérance. Et je trouve que ce texte résume bien en lui-même ces trois grandes vertus. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Toutes les personnes qui entendirent les bergers furent étonnées de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait profondément.
En cette nuit, semblable à tant d'autres obscurités, reconnaître l'irruption de l'espérance au cœur de l'inquiétude humaine. En cet espace de pauvreté, semblable à tant d'autres lieux de misère, reconnaître l'endroit de la présence de Dieu. En ces bergers, semblable à tant d'autres marginaux et exclus, reconnaître les premiers invités dans sa maison. En cet enfant de crèche, semblable à tant d'autres enfants dans leur lange, reconnaître le bouleversant amour de Dieu. En cet enfant de fragilité, semblable à tant d'autres enfants reposant contre leur mère. Reconnaître Dieu élevant l'humanité à sa beauté. En cet enfant, reconnaître Dieu déposé dans le berceau de l'humanité. Voici encore les paroles d'un poète écrivain profondément spirituel, plein d'humanité et tout à fait laïque. Je l'ai choisi à dessein, puisque je le disais au début, Noël n'est la propriété de personne. Noël, c'est pour tous. Cet écrivain dit Noël à sa manière, hors du cadre religieux et des phrases connues. De quoi élargir notre pensée et lâcher prise sur ce que nous pensons parfois savoir ou détenir. Il a écrit « C'est difficile de parler de Noël. Je ne veux pas aller du côté de l'attendrissement, car ce penchant-là est aujourd'hui nourri et même gavé. J'aimerais éviter les sucres et les papillotes en offrant une vision très simple du destin de ce nouveau-né. Il va être notre victime. Nous allons le massacrer. Mais son absence de ressentiment est si grande qu'elle a peut-être une chance de nous atteindre et de nous délivrer de nos manies d'avoir toujours raison, de notre volonté d'être sans cesse les premiers. Jésus, l'enfant le plus fragile de tous, est en même temps invulnérable, car il a accepté cette fragilité, il en a fait la fleur de sa vie. Quand on écoute les paroles des évangiles, elles sont étrangement simples et d'une profondeur abyssale. Comme si le Christ, cet homme de 33 ans, était à chaque fois en train de naître. Comme s'il se trouvait toujours dans l'émerveillement des premières fois, des premiers jours. Celui que nous cherchons à célébrer à Noël, c'est tout simplement la vie à son point de source. C'est un bébé infatigable. Ce sont des paroles de Christian Bobin. Que nous le voulions ou non, que nous ayons des doutes, beaucoup ou très peu, cela n'y change rien. Noël, c'est le moment où la lumière fait irruption en plein cœur de la nuit. Vous le savez sans doute, dans une grande pièce toute noire de nuit, si vous allumez une bougie de réchaud, toute petite, sa flamme devient visible depuis le moindre recoin de la pièce. C'est ça, Noël. C'est donné. C'est une grâce. Que nous soyons des chrétiennes et chrétiens fervents ou pas, nous avons toutes et tous un besoin vital de lumière. Il y a tant de gestes dans notre monde actuel qui s'ingénient à souffler sur les flammes de vie et de réconciliation, voire même y prennent un malin plaisir, que l'appel résonne pour nous, parmi nous, ayant l'esprit de résistance et de contradiction. Allumons des flammes, petites ou grandes, partout où c'est possible, au cœur de la nuit. L'esprit de résistance et de contradiction, c'est refuser que soit éteinte la flamme de Noël, que ce soit pour des raisons religieuses, politiques ou philosophiques. C'est lutter pour que cette flamme reste allumée contre les vents de violence, de désabusement, de désespoir. Allons en pensée et en foi à Bethléem, loin de la masse humaine et de ses pressions. À la lueur de quelques torches, dans une étable, nous pouvons distinguer le visage d'un enfant. Il nous est dit que c'est l'amour de Dieu qui vient prendre chair dans notre chair et vit dans notre vie. Il nous est ainsi dit que toutes et tous, nous sommes désormais fils et filles de Dieu, porteurs de lumière et artisanes de paix dans le monde. C'est ça, Noël, que voici.
Nous continuons les lectures et de nouveau, c'est chez Luc. Nous faisons honneur à l'évangéliste Luc ce soir. Luc, chapitre 2, versets 15 à 19. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous y voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Toutes les personnes qui entendirent les bergers furent étonnées de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait profondément.
Il nous est dit que cet enfant est l'amour de Dieu qui vient prendre chair dans notre chair, vit dans notre vie. Il nous est ainsi dit que toutes et tous, nous sommes désormais fils et filles de Dieu, porteurs de lumière et artisanes de paix dans le monde. C'est ça, Noël. Nous prions. Béni sois-tu, Dieu notre Père. Dans l'enfant qui vient à nous en cette nuit de Noël, c'est de naissance que tu nous parles. Mais cette naissance ne va pas sans peine, et pour que notre prière soit vraie, nous te confions maintenant la vérité de nos cœurs. Ce désir de vivre pleinement Noël et nos questions sur cette fête. Notre envie d'être dans la foi et nos résistances à croire. Cette faim de sens et nos révoltes face au non-sens. Cette soif de relations vraies et nos difficultés à vivre les uns avec les autres. Toutes ces contradictions qui nous habitent, nous les déposons devant toi, Seigneur, non pour que tu les effaces, mais pour que tu les retournes en chemin de vie. Donne-nous maintenant d'accueillir la douceur de Noël et permets qu'en nos visages, il y ait assez de lumière pour ceux qui sont dans l'ombre. Permet qu'en nos cœurs, il y ait assez de paix pour ceux qui sont dans la révolte. Permet qu'au milieu de nous, il y ait assez de tendresse pour ceux qui sont dans la solitude et le deuil. Au nom de ce Fils de lumière, né parmi nous pour qu'il fasse clair dans nos vies. Amen. Quelques annonces. Tout d'abord, en sortant, vous pourrez déposer dans les troncs de chaque côté du dernier banc votre offrande. Sur l'appel de notre Église, cette offrande de Noël s'adresse à la fragilité et aux besoins de protection du nouveau-né et en même temps au faire-mémoire de la réconciliation universelle, y compris la réconciliation écologique, qui par Jésus-Christ se rejoignent toutes à Noël. La collecte de Noël en est le reflet, puisqu'elle est destinée à part égale au projet de Frida, anciennement service chrétien pour la paix à l'étranger, ainsi qu'au travail des éco-églises pour l'environnement en Suisse. Ce sont les projets menés par Frida au Maroc, en Bosnie-Herzégovine ainsi qu'à Gaza, qui offrent une protection contre la violence faite aux femmes et aux enfants. Outre le travail de sensibilisation générale mené au sein de ces sociétés, ces programmes permettent aux femmes ainsi qu'aux filles victimes de violences de trouver le soutien et l'encadrement dont elles ont urgemment besoin par des lignes d'assistance téléphonique ou des foyers d'accueil. L'autre moitié de cette collecte ira pour l'environnement, la sauvegarde de la création. Pas besoin de vous préciser plus. Un immense merci pour votre générosité. Demain matin, ici même, à 10h, culte de Noël avec Sainte-Seine, célébré par ma collègue Marianne Chapuis. Et enfin, en sortant, vous trouverez ou vous recevrez de Vanda, il y a des bougies en forme de cœur, des toutes petites bougies de réchaud. Je vous invite à en emmener, il y en a 50, je pense qu'on devrait y arriver pour chacun. Emportez-en une et je vous invite à l'allumer ces prochains jours ou ces prochaines nuits en signe de lumière et de solidarité sur le bord d'une fenêtre, dans l'embrasure d'une porte, pour que nous puissions rester en pensée avec cette lumière qui fait irruption au milieu de la nuit. Un immense merci. Ah oui, et puis dans l'entrée, vous trouverez encore une mandarine que vous pourrez emporter. Il ne faut pas que j'oublie de dire qui vous est offerte. Un immense merci à Sarah Gerber et à Jean Sidler au violon pour cette magnifique musique. Merci à Yvan et Vanda pour les préparatifs. Merci à Bertrand pour les lectures. Merci à François qui s'est chargé de la technique pour les chants. Nous allons terminer cette célébration debout pour dire le Notre Père et recevoir la bénédiction. Avec dans le cœur la confiance renouvelée parce qu'il nous est dit que Dieu a pris visage d'enfant et que son amour est venu parmi nous, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Noël, comme une lumière d'espérance et une aube de paix à l'horizon. C'est cette grâce que nous recevons en cette nuit de Noël de la part de celui qui veille et nous aime, Dieu Emmanuel. Sa paix soit avec nous cette nuit, demain et chaque jour. Amen.